Bienvenue sur Neo Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. Le début des années 1870 marque un tournant majeur dans l'histoire de la pensée économique. Trois penseurs, de nationalités différentes, vont indépendamment et quasi simultanément développer un concept innovant, celui de l'utilité marginale, qui va bouleverser la science économique. Leurs travaux vont conduire à ce qu'on appellera plus tard la révolution marginaliste et par là même à la naissance de l'école dite néoclassique. L'un des trois protagonistes de cette révolution est l'Autrichien Karl Menger. Depuis Vienne, il rédige et publie son ouvrage fondateur, Principes d'économie politique, dans lequel il expose sa vision toute personnelle du marginalisme. Ce faisant, il donne une nouvelle théorie de la valeur, non pas fondée sur le coût de production, en particulier le coût du travail, mais sur la notion d'utilité marginale décroissante. Mais Menger n'est pas seulement célèbre pour avoir été à l'origine d'un bouleversement conceptuel dans l'histoire des sciences économiques. Il l'est tout autant pour avoir fondé une école de pensée particulière, l'école autrichienne d'économie, qui se distingue de l'école néoclassique sur les plans philosophiques et méthodologiques. Karl Menger est né le 28 février 1840 en Galicie, qui fait aujourd'hui partie de la Pologne. Il était le descendant d'une vieille famille autrichienne qui comprenait des artisans, des musiciens, des fonctionnaires et des officiers de l'armée, lesquels avaient quitté la Bohême, une région de la Tchéquie actuelle, au XVIIe siècle. Son père, Anton, était avocat, et sa mère, Caroline, la fille d'un riche marchand de Bohême. Il avait deux frères, Max et Anton. Le premier, avocat, homme d'affaires et député libéral au Parlement autrichien. Le second, éminent auteur socialiste et professeur associé à la faculté de droit de l'Université de Vienne. Après des études de droit aux universités de Prague et de Vienne de 1859 à 1863, Menger part travailler comme journaliste dans la ville de Lemberg, puis à Vienne où il atteint une certaine notoriété dans la profession. Il rédige notamment des articles sur la bourse et l'économie. C'est à peu près à cette période que Karl et ses deux frères renoncent à leur titre de noblesse par conviction politique et au suffixe von qui était attaché à leur nom. En 1865, Menger crée son propre journal, le Wiener Tagblatt, dont la ligne éditorialiste est plutôt favorable au gouvernement de l'époque, dirigé par Richard Belcredi. Malgré un nombre de tirages importants, en partie dû à un prix très faible, le journal va bientôt être en proie à des difficultés financières. Au début de 1866, le gouvernement décide alors d'entrer au capital et de le subventionner. Menger se voit également confier le poste d'éditeur en chef de l'organe de presse gouvernemental, le Wiener Zeitung, en charge de la section économique. À l'automne 1866, il quitte le Wiener Zeitung afin de préparer son examen oral pour le doctorat de droit de l'Université de Cracovie, qu'il obtient l'année suivante. Il retourne ensuite à Vienne pour poursuivre son activité de journaliste et passe les quatre années qui suivent à élaborer son système de pensée économique avant de publier son ouvrage majeur, Ses principes d'économie politique, en 1871. Ouvrage qui allait changer radicalement l'histoire de la pensée économique. Menger fait alors le choix de se consacrer à une carrière académique plutôt qu'à celle de haut fonctionnaire. En 1872, il obtient le droit d'enseigner et en 1873, il devient professeur assistant à l'Université de Vienne. Menger démissionne du service de presse du ministère, mais poursuit ses activités journalistiques dans le secteur privé jusqu'en 1875. En 1876, il devient le précepteur du prince héritier de l'Empire austro-hongrois, Rodolphe de Habsbourg, alors âgé de 18 ans. Au cours des deux années suivantes, Menger donne des cours à Rodolphe, tout en voyageant avec lui à travers l'Europe. À son retour à Vienne, Menger est nommé par l'empereur François-Joseph, le père de Rodolphe, à la chaire d'économie politique de la faculté de droit de Vienne, où il prend ses fonctions en 1879 en tant que professeur titulaire. Il jouissait alors de toute l'autorité nécessaire pour clarifier, défendre et imposer la méthode théorique qu'il avait adoptée dans ses principes d'économie politique. Son ouvrage avait en effet déclenché une vive polémique autour de la méthode à utiliser pour étudier les phénomènes économiques. Il allait de ce point de vue à l'encontre des positions de l'école historique allemande, dont le représentant le plus éminent à l'époque était Gustav Schmoller. Ainsi, de 1871 et la parution de ses principes d'économie jusqu'en 1883, date à laquelle il publie son deuxième ouvrage majeur, Les recherches sur la méthode, Menger cherchera à défendre son approche méthodologique de la science économique contre les attaques répétées des historicistes allemands. La querelle des méthodes fait référence à cette dispute méthodologique dans les années 1870 et 1880 entre Menger et Schmoller. L'école historique était alors dominante dans les universités allemandes et ses représentants ont veillé à ce que les idées de Menger ne dépassent pas les frontières de l'Autriche. Après la publication des recherches sur la méthode, Schmoller et Menger se sont accrochés pendant les deux années suivantes. En 1884, Menger répondra aux attaques de Schmoller par un pamphlet cinglant intitulé « Les erreurs de l'historicisme dans l'économie allemande ». Et le débat a continué jusqu'au XXe siècle à travers leurs disciples. Dans ses principes d'économie politique, Menger avait pour intention première de proposer une nouvelle théorie économique pour pallier les erreurs de la théorie économique classique construite par des figures telles qu'Adam Smith et David Ricardo, pour ne citer qu'eux. Les tenants de l'école historique allemande, les historicistes comme on les appelle, rejettent toute forme de théorie en arguant que la vision des classiques ne colle pas avec la réalité du monde germanique et que les lois économiques ne sont pas universelles, mais dépendent du contexte historique. Qui plus est, il rejette le libre-échange commercial qui dérive des thèses classiques. Menger renvoie dos à dos classiques et historicistes, les premiers à cause de leur théorie de la valeur travail, les seconds pour leur méthodologie exclusivement empirique et antithéorique. Dans les principes, il pose les fondements de sa méthode. Il refuse les concepts collectifs qui sont selon lui trop flous, les références à l'État, la nation, les classes, par exemple. Menger veut bâtir une théorie, entre guillemets, pure, et exact. L'économiste doit déterminer les causes premières et essentielles des phénomènes économiques afin d'en déduire des lois universelles, des lois valables en tout temps et en tout lieu. Pour Menger, il faut partir d'axiomes réalistes, c'est-à-dire conformes avec l'observation du réel, et procéder par déduction pour en tirer des lois sur des phénomènes typiques, c'est-à-dire des phénomènes qui ne dépendent pas du contexte de l'époque considérée. Pour Menger, les phénomènes économiques ne s'expliquent que par les individus, leurs caractéristiques, leurs actions et leurs interactions. La cause première des phénomènes sociaux et économiques, c'est donc l'individu. Et les individus sont guidés par la recherche de la satisfaction de leurs besoins. C'est pour lui la cause première, essentielle, qui est à l'origine de tous les phénomènes économiques complexes. La méthode d'analyse de Menger, qui attribue aux phénomènes sociaux des causes liées à l'individu, est ce qu'on appelle l'individualisme de méthode, ou méthodologique. Il y a bien des similitudes entre la pensée de Menger et celle d'Aristote sur la méthode scientifique et sur la théorie de la valeur des biens. Il faut dire que le philosophe Stagirite a été pour Menger une grande source d'inspiration, comme l'ont révélé les historiens de la pensée économique. En témoigne la correspondance entre les notes manuscrites de Menger qui ont été trouvées sur sa copie des principes d'économie politique et sur son exemplaire de l'éthique à Nicomaque. L'ambition de Menger était donc de faire de l'économie une science exacte, comme n'importe quelle science naturelle. Mais il refusait l'usage des mathématiques pour y parvenir. Non pas par manque de connaissances en la matière, mais pour des raisons purement méthodologiques. Dans sa correspondance avec Walras, il expliquera que l'objet de la science économique n'est pas seulement les relations quantitatives, mais aussi la nature ou l'essence des phénomènes économiques, et de se demander comment il était possible de parvenir à la compréhension de ces phénomènes économiques à travers l'usage des mathématiques. Pour Menger, l'individu cherche donc à satisfaire ses besoins. Et bien qu'il puisse commettre des erreurs dans cette quête, personne d'autre que lui ne peut juger du bien fondé de ses choix. Les biens sont les moyens par lesquels l'individu va pouvoir satisfaire ses besoins, soit directement s'il les possède, soit par la production et l'échange. Une chose ne deviendra un bien économique que si l'individu la considère capable directement ou indirectement de satisfaire ses besoins. Alors que pour les classiques, la valeur d'un bien dépendait en partie de la quantité de travail direct et indirect nécessaire à sa fabrication, pour Menger, elle dépend plutôt de la capacité du bien à satisfaire les besoins des individus. Le bien tire donc sa valeur de sa finalité, la satisfaction d'un besoin, qui est subjective, et non de la quantité de travail utilisée pour le produire. Par conséquent, la valeur de tous les biens ou facteurs de production ayant servi à produire un bien de consommation finale dérive de la valeur de celui-ci. Menger inverse ainsi la chaîne de causalité des valeurs donnée par la théorie classique. À la théorie objective de la valeur travail échafaudée par les classiques, il substitue une théorie subjective de la valeur. Cela va lui permettre de résoudre le fameux paradoxe diamant-eau. Ce paradoxe avait été exposé par Adam Smith, pour qui la valeur d'un bien était d'abord due à son degré d'utilité. Il distinguait la valeur d'usage, déterminée par le degré d'utilité du bien, et la valeur d'échange. Les deux valeurs devaient normalement être identiques. Or, il constate qu'il n'en est rien dans certains cas. Ainsi, alors que l'eau apparaît beaucoup plus utile qu'un diamant, il ne peut expliquer pourquoi la valeur du diamant est très supérieure à celle de l'eau. Pour résoudre le paradoxe, il considère qu'en plus de l'utilité intrinsèque du bien, la valeur de celui-ci dépend de la quantité de travail nécessaire pour le fabriquer. C'est la théorie de la valeur travail que Ricardo peaufinera par la suite. Toutefois, celle-ci est imparfaite, car comment expliquer que les émeraudes coûtent beaucoup moins cher que les diamants, alors qu'elles sont beaucoup plus difficiles à extraire et à tailler? La théorie subjective de la valeur que développe Menger permet alors de résoudre ce paradoxe. La valeur d'échange d'un bien est bien égale à sa valeur d'usage, mais ce qui détermine la valeur du bien, c'est le niveau de satisfaction que l'on tire de la consommation d'une unité supplémentaire de ce bien. Et comme le précise Menger, le niveau de satisfaction d'une unité supplémentaire consommée décroît à mesure que la quantité consommée augmente. Ainsi apparaît le concept d'utilité marginale décroissante. La valeur du bien dépend donc de son utilité marginale, qui elle-même dépend à la fois de la rareté du bien et de l'évaluation subjective des individus. L'eau ne sera pas chère si elle est suffisamment abondante, car son utilité marginale sera alors faible. En revanche, dans le désert, sa valeur sera extrêmement élevée. Quant au diamant, il est cher parce que son utilité marginale est très élevée, du fait en partie de sa rareté. Menger explique ensuite que la raison pour laquelle les individus échangent volontairement des biens et qu'ils perçoivent subjectivement l'échange comme un moyen d'améliorer la satisfaction de leurs besoins. Autrement dit, chaque participant à l'échange considère que les biens qu'il reçoit ont plus de valeur que les biens qu'il donne. L'échange est donc bénéfique pour les deux parties, sans quoi il n'y aurait aucun intérêt à échanger. L'échange crée de la valeur, ce qui justifie, aux yeux de Menger, l'existence des intermédiaires dont le rôle est de faciliter les échanges, car ce faisant, ils créent de la valeur. Le rapport entre les quantités réellement échangées des deux biens détermine le prix de chaque bien, qu'il soit exprimé en unité monétaire ou en unité de l'autre bien. Menger a également montré que la monnaie, en tant que moyen de transaction, résout la difficulté d'échanger des marchandises directement. Un éleveur de moutons qui veut du pain trouve plus facile d'échanger ses moutons contre un bien largement accepté, la monnaie, puis d'échanger ce bien contre du pain. Il est beaucoup plus difficile d'échanger directement des moutons contre du pain. La monnaie comme le langage s'est donc développée spontanément, comme un moyen de faciliter les échanges. Menger ne croit donc pas à la thèse qui fait du prince ou de l'État l'inventeur de la monnaie. Il considère plutôt l'État comme un tiers de confiance, un garant utile des qualités physiques de la monnaie, et aussi comme un régulateur qui peut jouer un rôle pour stabiliser les prix en contrôlant la quantité de monnaie introduite dans l'économie. À l'origine, Menger avait prévu d'écrire plusieurs tomes pour fonder une théorie économique générale. Mais l'accueil glacial qui avait été réservé à son premier opus, Les Principes d'économie, de la part de l'école historique allemande, l'avait obligé à clarifier sa méthode pour en expliquer la supériorité par rapport à l'approche historique. Cela lui a pris plusieurs années comme nous l'avons vu. À la fin des années 1880, Menger prend finalement ses distances avec la querelle des méthodes pour revenir aux questions de théorie économique pure et d'économie appliquée. En 1888, il publie un article notable sur la théorie du capital. Également, au cours de cette période, Menger est membre d'une commission chargée de réformer le système monétaire autrichien un rôle qui l'a amené à réfléchir profondément aux problèmes de la théorie et de la politique monétaire. Le fruit de cette réflexion s'est concrétisé par une série d'articles sur l'économie monétaire publiés en 1892. Menger a démissionné de son poste de professeur en 1903 et n'a plus produit d'œuvres notables jusqu'à sa mort en 1921. Bien que co-inventeur du marginalisme avec Jevons et Walras, Menger est en opposition avec eux sur la nature de la science économique, la méthodologie scientifique et l'usage des mathématiques notamment. Alfred Marshall fera la synthèse entre école classique et marginalisme en s'appuyant sur les travaux de Walras et Jevons, donnant ainsi naissance au courant néoclassique. Parallèlement, une autre école de pensée se constitue sur la base des idées de Menger. Les historicistes allemands l'avaient alors qualifié avec mépris d'école autrichienne, et le nom est resté. Menger avait diffusé ses idées novatrices tout au long de sa carrière universitaire à Vienne. Ses premiers disciples les plus connus, qui furent aussi ses élèves, Friedrich von Wieser et Eugen Böhm-Bawerk, ont perpétué son enseignement. Les générations suivantes vont se différencier peu à peu, mais leur adhésion à un socle commun d'idées liées à la pensée de Menger suffit à les rattacher à cette école de pensée. Parmi les représentants les plus éminents de cette école, lors des générations suivantes, on trouve Mises, Hayek, Marloup, Rothbard ou encore Kirzner, pour n'en citer que quelques-uns parmi les plus connus. Même si l'on devine un certain lien de parenté intellectuelle entre Karl Menger et les scolastiques espagnols de l'école de Salamanque, ou certains économistes français tels que Turgot, C ou Bastiat, il est toutefois incontestable que la publication des Principes d'économie en 1871 marque véritablement l'acte de naissance de l'école autrichienne d'économie.